RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui, dans les GG, nous sommes avec Étienne Liebig, éducateur, anthropologue, travaillant en Seine-Saint-Denis. Nous sommes avec Mehdi Guézard, chef d'entreprise. Et Lina Dumont, intervenante sociale des Grandes Gueules, rejointe tout à l'heure par Éric Brocardi, c'est le porte-parole des sapeurs-pompiers. Ça a été l'un des visages de l'été, Éric Brocardi, que l'on a vu ici sur les plateaux, commenter, décrire, expliquer ces incendies, comment les pompiers intervenaient. Le président de la République va provoquer une réunion afin de voir comment on peut changer les dispositifs, comment on peut les améliorer. Là, on a compté sur la solidarité européenne pour faire face à ces incendies, mais les syndicats de pompiers, lorsqu'ils ont manifesté il y a deux ans, trois ans maintenant, avaient dit ce dont ils avaient besoin. Il y avait un rapport du Sénat aussi sur les besoins des pompiers. Donc, est-ce qu'il faut par exemple augmenter l'indemnisation pour ceux qui sont pompiers volontaires lorsqu'ils quittent leur travail? Ça va de 8 euros à 12 euros en fonction du grade. Donc, on verra tout cela avec Éric Brocardi tout à l'heure à midi moins 25 dans le Face au GG. En attendant, on y va pour le GG 7 et match.
RMC.
GG 7 et match.
Nous voilà du côté de Nancy. À Nancy, où laisser tourner son moteur quand on ne roule pas, ce n'est pas bien vu. La ville de Meurthe-et-Moselle a décidé de faire payer une amende de 135 euros aux automobilistes s'ils ne coupent pas le moteur de la voiture lorsqu'ils sont à l'arrêt en dehors de la circulation. Alors, la mairie estime qu'il s'agit d'une mesure de bon sens. Il suffit d'écouter le maire Bertrand Masson, il est adjoint au maire.
Je pense que c'est une mesure de bon sens en réalité. Et d'ailleurs, les automobilistes que nous interrogeons depuis maintenant quelques jours comprennent tout à fait cette mesure. À cette heure, l'objectif n'est pas forcément de verbaliser. Il est plutôt de faire prendre conscience, de rappeler chacun sa responsabilité individuelle. Le fait que nous puissions en parler permet d'attirer de nouveau l'attention sur les conséquences du réchauffement climatique. Je crois que rien que cela, finalement, montre tout l'intérêt de s'être arrêté.
Oui, parce que quand on est à l'arrêt et qu'on laisse le moteur tourner, on rejette des gaz, des particules, alors que souvent la ville de Nancy est touchée par la pollution. Alors, est-ce que c'est le GG7 et match? Est-ce que c'est une bonne mesure? Est-ce que c'est utile ou inutile? On a inutile avec Elina et avec Mehdi, et on a utile avec Étienne. On vous attend au 32-16 pour en parler avec les GG. Coup d'envoi de la discussion, c'est Étienne Liebig. La minute, elle est pour toi.
Quand on est maire, on a la responsabilité de la sécurité de ses administrés. Il y a plus de 10 000 morts par an à cause des microparticules qui sont dues aux véhicules. Donc quand on est maire, automatiquement, et quand on est politique, on doit protéger ses citoyens. Donc effectivement, les particules, c'est essentiellement le chauffage et les transports. Donc dès qu'on peut diminuer un petit peu la pollution par les transports, remplacer les voitures thermiques par des voitures électriques et faire rouler le moins de voitures possible dans une ville, c'est de la responsabilité de la sécurité, puisqu'on parle sans arrêt de la sécurité des citoyens. Donc c'est tout à fait normal. En plus, je trouve ça mais totalement absurde de faire tourner sa voiture quand on est à l'arrêt. C'est quoi l'intérêt? Je vois pas où est l'intérêt. Alors faire avoir la clim à l'intérieur, mais tout le monde va être obligé de faire quelques petits efforts et il faut éteindre les lumière dans les commerces et dans les bureaux la nuit, eh ben on va aussi arrêter de faire tourner le moteur quand on est à l'arrêt. Ça sert à rien. Voilà. Donc c'est très con, c'est très simple, c'est très primaire. Oh
mais c'était très bien, hein, je t'assure.
C'était très bien construit. En même temps.
Construit, c'était, oui, ça tenait dans le cadre de la minute qui t'était impartie. Ah ouais, je crois que c'est la première fois d'ailleurs.
C'est la première fois que je.
Parce qu'il n'avait rien à dire.
J'ai une espèce d'émotion là, excusez-moi.
C'est juste parce qu'il n'avait rien à dire.
Il a des cachets, Mehdi, si tu veux.
Il est réveillé là.
Je
veux
dire, c'est parce qu'il n'avait rien à dire.
En tout cas, c'est grave.
Alors, on y va. Utile, Étienne dit, ce sont des petits efforts qu'on doit faire au quotidien aujourd'hui. Mehdi, Elina, allons y va.
Un maire de plus qui veut faire son petit quart d'heure de gloire sur les plateaux télé ou sur la presse écrite. Un arrêté qui ne sert à rien. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il était depuis 1963, il n'a jamais été utilisé. Franchement, pourtant j'ai un garage automobile, hein, je connais pas beaucoup de débiles qui laissent leur moteur allumé pour rien faire comme ça, pour rester dans la voiture. Enfin, j'en vois pas utilité, j'en connais pas beaucoup, je suis désolé.
Hein.
Je peux te dire que moi, en tout cas, j'en vois pas. Je sais pas toi où est-ce que tu habites, mais moi, en tout cas, j'en vois pas. Et j'habite en ville. Maintenant, c'est une question. On fait un truc, on fait un pari, toi et moi, Étienne. On demande à Nancy, à la mairie de Nancy, d'ici le 31 décembre, on est le 16 août, d'ici le 31 décembre, combien vont verbaliser de voitures. Comment tu peux quantifier, comment tu peux qualifier que le type laisse son moteur comme ça, très tourné pour rien? Le type, il te dit, bah écoute, moi, mon coco, c'est un véhicule essence, je viens de rentrer dans la voiture, il faut que je laisse chauffer. Tu vas dire quoi? Non, je te mets 135 euros d'amende. Le type, il te dit, non, mais monsieur, je suis en train de partir. Je viens de régler ça, le poste. Je viens de régler le poste et je pars. Tu vois,
donc c'est tellement pas facile à qualifier.
C'est pas facile, c'est que c'est impossible à qualifier. Donc c'est encore un truc
en train de braquer une banque, faut que je parte.
Voilà, c'est complètement débile. Mais encore, c'est encore un maire comme les douches, comme les trucs, ou c'est encore un maire qui veut faire un peu de, c'est un peu de, ouais, je suis écologique, je pense à l'écologie, qui veut faire un peu dormir les gens de son parti ou de sa municipalité. Qui sont un peu verts en leur disant, regardez, moi je m'occupe de vous, je mets des arrêtés à 135 euros. S'il a plus de 1000 euros d'amende d'ici la fin de l'année,
c'est d'accord avec moi que quand tu as plus de morts par la pollution aux microparticules dans un endroit, quand tu as plus de morts que tu as de morts, par exemple, quand on dit la violence, les agressions, en réalité, il y a beaucoup plus de morts par la pollution aux microparticules. La sécurité des citoyens, ça rentre dans la sécurité des citoyens. Quand tu es maire, t'es obligé de prendre des décisions.
Prends des décisions qui sont utiles. Ne me dis pas comme quoi, oui, je vais verbaliser une voiture parce qu'elle a laissé le moteur allumé alors que ce n'est pas possible de qualifier.
Faut que ce soit associé à nous.
Mais Étienne, je vais te dire un truc. T'as vu, les constructeurs, pour moi, en tant que garagiste, ont fait la plus grande escroquerie du monde avec le système start and stop. Est-ce que tu sais ce que c'est dans les véhicules start and stop? Le start and stop, c'est que quand tu t'arrêtes au feu rouge, le moteur s'éteint tout seul et se rallume directement quand tu appuies sur la pédale d'accélérateur. Et en fait, ça fait démarrage. Il éteint arrêt et démarrage constamment du véhicule. Est-ce que tu sais? Je te le dis, et je le dis devant 64 ou 65 millions de Français. 66 millions de Français. Je te le dis, c'est la plus grande escroquerie que la Terre puisse porter.
Ça pollue. Ça pollue.
Mais c'est pas question de pollution. C'est que, un, quand tu démarres automatiquement, tu as les gaz qui sortent d'un coup. Donc, c'est mieux que des gaz qui sont constants. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu as une poussée de gaz. Et la deuxième des choses, c'est quoi? C'est qu'avant, un démarreur d'un véhicule, il tenait entre 200 et 250 000 kilomètres. Le démarreur en lui-même, tu mettais la clé à l'intérieur, sa durée de vie, on va dire, est entre 200 et 250 000 kilomètres. Maintenant, avec le système start and stop, un démarreur, c'est entre 80 000 et 120 000 kilomètres. Donc, c'est quoi? C'est de l'obsolescence programmée pour que les constructeurs se font plus de pognon pour te dire après, non, mais c'est écologique. Non, c'est pas écologique. C'est que tu me prends pour un con. Il n'y a rien d'écologique là-dedans. En fait, tout le monde se cache derrière l'écologie. Il y en a, par exemple, les maires, pour avoir des voix, moi je le dis, ça c'est un truc électoraliste, pour que le type...
À mon avis, c'est pas très populaire,
ça. Ça va être populaire,
oh, non, oh,
avec
non,
les écolos.
Dès que tu gênes les gens, ça
ne peut être que populaire. Laisse-moi finir, tu sais pourquoi ça ne peut être que populaire, Étienne? C'est parce qu'il ne va verbaliser personne, je te le dis, il ne va verbaliser personne. Alors. Donc personne ne sera chié avec ça. Et que les écolos, ils vont dire, ah bah ouais, t'as vu le maire, ce qu'il a fait, il a sorti un arrêté qui date d'il y a 50 ou 60 ans. Donc tous les deux, ils vont être contents. Que le maire, il va faire son coup de buzz, il va faire son coup de pub. Et que lui,
populaire. Regarde Hidalgo, elle est devenue impopulaire avec ses mesures.
Ne compare surtout pas Hidalgo avec les autres maires de France. Non.
Elle est devenue impopulaire avec ses mesures écologiques.
Hidalgo, tout ce qu'il faut pas faire,
elle est impopulaire à cause de ses mesures écologiques.
Hidalgo, elle est impopulaire parce qu'elle a coulé Paris.
Mais elle a rien coulé du tout.
Elle a coulé Paris. Paris est sous tutelle. Arrête.
Quand même, je tiens à vous le dire. D'une partie, excuse-moi.
Elle a coulé Paris.
De 4 arrondissements. Vas-y.
Moi, ce que je voulais dire.
Sur 20.
Ce qui me rend dingue. C'est que j'ai bien écouté ce qu'il a dit le maire. Pour faire prendre conscience aux gens, il faut passer par une amende.
Ou du moins la perspective de recevoir une amende.
Ouais. Non mais attends Alain, t'imagines à Colmar? Alors, entre la police qui doit vérifier si les vitres sont fermées...
À Nancy. Ouais,
à Nancy, excuse-moi, je confonds avec le
procureur. C'est à côté.
C'est peut-être pour ça. Attends, la police, ils vont faire que ça quoi. Voir si les moteurs... Déjà, moi, alors là, je confirme ce qu'a dit Mehdi. Moi, j'ai jamais vu ça. Des gens qui laissaient le moteur allumé comme ça. Vu le prix du carburant, je pense que c'est pas des gens fliqués qui font ça, en tout cas. Et ce que je voulais dire, non, mais attends, la police à Nancy va passer son temps à vérifier si les vitres sont ouvertes.
Vérifier si les gens ont un
parce qu'il y a des moteurs. Non, mais attends, les gens, ils sont intelligents. Et puis avec tout ce qu'on a vu pendant l'été, entre la sécheresse, les feux...
Cela dit, là où Étienne a raison, c'est que cet été, quand tu passais près des voitures qui avaient le moteur qui tournait... et que les gens étaient dedans, oui, tu sentais la chaleur et surtout tu voyais que c'était pour garder la clim.
Pour garder la clim à l'intérieur.
Garder la clim à l'intérieur de la voiture, si tu veux. Bah oui. Ah,
désolé, moi, toutes les voitures que je prends, il y a pas de clim.
Oui, mais peut-être, ouais, mais ouais. Parce que t'es une pauvre.
Ah bah oui.
Non, mais oui, c'est vrai.
Les pauvres qu'on parlait à clim.
Mais aujourd'hui, donc, finalement, c'est par les maires on a l'impression qu'en fait, c'est sur les petits que ça tombe. Tu sais, l'histoire du commerce.
Bien sûr.
Verbalisé. Qui laisse sa porte ouverte alors qu'il a la clim, ou la voiture dont tu laisses le moteur tourner, ou les plages, les arrêtés municipales pour dire aux plages arrêtez les douches, ou les fontaines municipales. Donc tu dis d'accord, mais à l'échelle nationale. Alors je veux bien qu'il faille faire des petits gestes et décentraliser, mais à l'échelle nationale, on fait quoi, tu vois, quand c'est ça le problème.
De toute façon,
finalement, toi, tu dis, quoi que je fasse, je vais passer mon temps à me faire verbaliser, me faire tamponner, quoi. Tu
non,
vois.
Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on est dans un virage, on est dans une nouvelle ère qui s'ouvre. Ça passe par la contrainte, ça va mettre du temps et ça passe par la contrainte et effectivement beaucoup vont le prendre comme quelque chose de très injuste.
Cette écologie ne peut être que punitive, quoi. Si on veut changer le monde,
c'est ce que je dis depuis toujours, j'ai toujours dit l'écologie, faut arrêter de dire l'écologie punitive. Mais oui, elle est punitive puisqu'elle est une remise en cause d'un certain nombre de... Il y a des gens qui aiment prendre des bains, etc. C'est vrai qu'à un moment il faudra peut-être qu'ils passent à la douche à la place du bain régulier, même si ça les gêne, on pourra pas aller chez eux vérifier, mais en tout cas, ce serait normal par rapport à une espèce de souci que nous devons avoir de la collectivité. Je pense qu'il faut que nous réapprenions à être moins individualistes, à plus se projeter sur le collectif et à se dire qu'on a un intérêt collectif à défendre et qu'on montre à nos enfants que tout n'est pas qu'individuel, que tout n'est pas ce qu'on a fait pendant 100 ans ou 80 ans, qui était une course permanente à plus de confort, plus de confort, plus de confort, plus gros frigidaire, de plus en plus gros, où on peut avoir du Coca-Cola qui coule, etc. Peut-être qu'il faut remettre en cause ce modèle, mais ça va être long, je suis d'accord. Il y a des millions de personnes qui vont dire, mais qu'est-ce que tu m'emmerdes à m'empêcher si j'ai le fric pour m'acheter un frigidaire qui fait 200 mètres, de quoi tu viens te mêler?
Et une clim chez moi.
Mais je pense qu'on commence.
Mais le prochain stade, ça va être ça. Mais ça va être de dire, quand on est particulier,
mais pourquoi pas,
on n'achète pas de clim.
Mais pourquoi pas, à condition qu'on trouve des modes. Par exemple, on peut pas à la fois empêcher les gens d'avoir une clim chez soi si on a peint toutes les routes en noir et s'il n'y a plus un arbre. Tu vois, je pense qu'il faut dire aux gens, il y a des tas de pays au monde où il fait très chaud où les gens n'ont pas de clim parce que les maisons sont adaptées à la chaleur avec des petites fenêtres, les murs épais. Nous, on a des maisons qui ont été faites pour vivre à 20 degrés et il en fait 45. Donc évidemment, ça pose un problème. Mais on pourra pas imposer aux gens de pas avoir de clim.
Non, justement, ça devient une intrusion, si tu veux, dans ma liberté d'individu, simplement à exister ou même à faire ne serait-ce que des bêtises. Laisser le moteur tourner, je suis d'accord, c'est une connerie. Mais
il y a plein de choses comme ça. Je veux dire, on arrête bien les gens qui ont un pétard dans la bouche. On arrête les gens qu'on... On peut dire fumer, c'est autorisé partout en Europe. En France, c'est interdit. On fume un pétard en France, on est puni, on est arrêté. Ça fait une affaire résolue pour Darmanin. On est arrêté pour ça. On peut dire c'est totalement absurde. Ça ne nuit à personne, ça emmerde personne. Et la police est mobilisée à 80% sur ça. Mais on peut trouver ça complètement con. C'est effectivement le principe qu'on a érigé en France. Et je te dis, c'est un lent virage qui s'amorce. Et je suis d'accord, il va y avoir des victimes. Et moi, je suis le premier à comprendre que ça nous emmerde.
Non, il a raison. Il a raison. C'est une question de savoir aujourd'hui qu'est-ce que tu préserves, la liberté individuelle et faire ce que tu veux,
ou le bien collectif,
au contraire, collectif avec les pouvoirs publics qui disent.
Mais c'est ça le patriotisme.
C'est la contrainte.
Alain, écoute. Parmi vous tous, vous avez des enfants. Vos enfants auront des petits-enfants. Et moi, j'ai confiance dans cette génération qui, eux, seront pas comme vous.
Ils sont nés comme ils sont nés dedans. Je suis d'accord.
Ils seront pas comme vous.
Oui, mais je suis d'accord avec ça.
En fait, c'est un faux débat. Mais je vous le dis, en fait, c'est un faux débat. C'est juste, arrêtez de croire au Père Noël. C'est, les gars, ça n'existe pas. Ou ça existe. Allez, 0,01% des cas qui laissent sa bagnole allumée, lui, il est à l'intérieur de la voiture.
Moi, je suis d'accord.
Ça n'existe pas. Mais excuse-moi. Mais
ça s'inscrit dans une logique.
Mais c'est juste un truc où le type, il veut attirer à gauche les écolos, à droite il veut se dire voilà moi mes concitoyens vont dire comme quoi je fais des choses bien, et en fait ça ne va impacter personne.
C'est pas populaire du tout,
c'est pas populaire quand ça touche au portefeuille, ça ne va toucher personne. Tu ne peux pas qualifier le fait. T'as vu ce qu'il te demande de qualifier, c'est inqualifiable. Moi un flic vient me dire à la fenêtre, il me toque à la fenêtre, il me dit monsieur votre voiture pourquoi le moteur est roulant, je vous verbalise de 135 €. Je lui dis, mais monsieur, c'est un véhicule, je suis obligé de le chauffer, je viens de démarrer. Il va me dire quoi?
C'est vrai,
il va me dire quoi? Mais il va me dire quoi?
Non, mais c'est pas possible. Tu comprends pas ce que je dis? Mais je dis pas que ça va être facile à qualifier, je dis pas tout ça.
Donc il y aura pas juste, d'amende.
Mais peut-être il y aura pas d'amende.
Donc c'est un coup d'épée dans l'eau.
Je dis juste que on est en ce moment, tu vois bien, tous les jours on en parle. Il y a des gens partout en France et partout dans le monde qui prennent des décisions de ce type-là. Évidemment, il y a le système chinois où si un patron il respecte pas les normes pour son entreprise, la boîte est fermée, lui va en prison. C'est un peu plus rude que chez nous. Mais pour l'instant, nous, on est un peu dans ce système-là, mais avec des contraintes moindres. Mais automatiquement, il y aura des contraintes et automatiquement, le monde est en train de changer. Et il va y avoir des résistances, mais on y arrivera. C'est obligé. C'est obligé, il y a pas d'autre choix, et on bâtira les maisons autrement, et peut-être on arrêtera de mettre du goudron noir, et peut-être on remettra des arbres là où on les a retirés. Tout ça va se faire. C'est lent, c'est de l'investissement, mais ça va changer dans notre petite tête.
Dans un instant, Jean-François qui nous appelle d'Agen, il trouve scandaleux ce que veut faire ce maire. Nadine qui est plutôt dans le camp d'Étienne, une mesure qui permet d'interpeller, de faire réfléchir. On va regarder où en est la consultation. Est-ce que c'est utile ou inutile? C'est inutile à 64%.
Une victoire de plus contre Étienne. Tu sais que quand tu gagnes contre Étienne, c'est une double victoire. Je suis encore plus content.
C'est pas fini.
C'est pas gagné, mon ami.
Ça va s'inverser. Allez, non, les grandes gueules, ça continue dans un instant.
Je sens que Nadine.
RMC, 9h midi.
Les grandes gueules.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story. On discute avec Elina Dumont, avec Mehdi Guézard, avec Étienne Liebig de ce que veut faire la mairie de Nancy. Un arrêté ministériel de 1963, très belle année, qui interdit aux automobilistes de laisser tourner le moteur de leur véhicule quand celui-ci est en stationnement. C'est la mairie de Nancy qui a repioché en fait cet arrêté ministériel. Il peut prendre une contravention de 135 €. Nadine est avec nous. Bonjour Nadine.
Oui, bonjour à tous.
Dans ce GG7 et match, dans l'équipe du oui ou dans l'équipe du non, alors?
Ah, ben moi, pour une fois, parce que je suis pas toujours d'accord avec lui, je soutiens Étienne. Alors, je ne sais pas où Mehdi vit, mais moi, personnellement, qui suis dans l'heure, il m'arrive très fréquemment, et pas plus tard que la semaine dernière, de sortir de ma voiture et d'interpeller un monsieur dans sa grosse voiture, en train de téléphoner, le moteur allumé sur un parking. Donc, j'ai frappé à la fenêtre, parce que bon, je ne peux pas m'empêcher d'intervenir, en lui disant, vous ne pouvez pas couper votre moteur. Ce à quoi il m'a répondu, je t'emmerde, sale conne et pauvre conne. Bon, pauvre, pourquoi, je ne sais pas. En tous les cas,
Sale, et c'est pas une question d'hygiène non plus, j'imagine. Non,
parce que je suis extrêmement propre, je ne prends que des douches. Mais oui, parce que on parle aussi de toute cette écologie punitive, mais c'est vrai qu'on ne parle que de la punition. Mais avant d'être abruti comme ce monsieur qui n'avait, franchement, il pouvait sortir, se mettre à l'ombre, il n'y avait pas péril dans la demeure.
Oui, parce qu'il laissait tourner, c'était pour la clim, quoi, en fait, c'est ça, la clim dans la voiture.
Il téléphonait confortablement, attendant, je ne sais, enfin, sa femme,
pour
faire des courses. Donc, oui, il y a beaucoup de gens, je suis désolée de dire à Mehdi, mais non, moi, j'en vois beaucoup et j'interviens suffisamment souvent pour leur signaler que couper le moteur, c'est pas interdit, hein. Donc, je me fais rembarrer à chaque fois. On a l'impression que tout ce qui se passe en ce moment, personne ne s'en rend compte. Ça coûte quoi de couper le moteur? C'est franchement.
Je vous dis la vérité, Nadine. Je vous crois. Hein. Bonjour, Nadine. Je vous crois.
Bonjour,
je crois votre expérience. Mais moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé.
Mais tu ne laisses pas tourner le moteur avec la clim?
Pas du tout.
Non.
Moi, je suis toujours pressé de sortir de la voiture parce que j'ai plein de choses à faire, donc je cours dans tous les sens.
Ah, bah voilà.
Ça me paraît même pas faisable.
Après,
je vous le dis,
On peut même garder la clim, mais sans avoir le moteur, c'est-à-dire juste avec le contact ou pas? Ou il faut que le moteur y tourne?
Non, normalement, il faut que le moteur tourne.
Il faut que le moteur tourne.
Pour la clim, hein, ouais, pour la clim, je sais pas.
Pour la clim, je n'ai jamais fait la preuve.
Mais Nadine, expliquez-moi, pourquoi vous vous sentez, entre guillemets,
agressé,
obligé d'interpeller et d'intervenir, dites-moi.
Ah ben, c'est un peu mon caractère. Hein. C'est la même chose quand je vois quelqu'un qui jette ses mégots par la fenêtre, ou qui jette des papiers, ou qui ne respecte, enfin, qui manque de civisme. Enfin, on vit quand même.
Fait chier son chien dans le trottoir.
Oui.
Pardon?
Il fait chier son chien sur le trottoir.
Oui, ou qui ramasse pas les crottes, ou qui jette des papiers. Enfin, je veux dire, c'est absolument hallucinant. J'ai vécu aux États-Unis. Là-bas, si vous faites ça, c'est pas les flics qui vous interpellent, c'est les gens qui vous voient faire ça, qui vous disent, mais enfin, ça n'existe pas. Je veux dire, on manque de civisme. Sinon, voilà. Alors, les gens critiquent. Oui, il faut pas me verbaliser, mais c'est dommage d'en arriver là. Mais il y en a certains qui devraient s'acheter un cerveau. Je suis
désolée.
Parce
qu'aujourd'hui, non mais, j'aime bien votre raisonnement. Parce que le laisser le moteur tourner, c'est polluer et c'est un manque de civisme.
Bien sûr.
Voilà,
bien
tout simplement
sûr.
Aujourd'hui.
Fait, oui. En plus de ça, ça fait du bruit parce que tout le monde n'est pas forcément
éclaté. Non mais alors à ce moment-là, Nadine, ok, oui. Mais poussons-le, allons jusqu'au bout, c'est-à-dire que puisque l'arrêté ministériel existe, faut pas que ce soit local. À ce moment-là, remettons en route la verbalisation.
C'est De Gaulle.
À l'échelle.
On adore De Gaulle. C'est le moment de le faire.
À l'échelle nationale, aujourd'hui, dire tout moteur qui tourne devient une.
Et dans la cour de l'Élysée aussi.
Ah, mais oui, ça a été relevé. Oui, justement.
Je suis absolument d'accord, y compris pour les ministres, etc., qui sont toujours prompts à donner des grandes leçons de maintien à tout le monde, mais qui ne s'appliquent jamais à eux-mêmes ce qu'ils préconisent pour les autres. C'est insupportable. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, malheureusement, la politique et les politiciens deviennent haïs et on leur fait plus confiance. Parce qu'ils nous expliquent ce qu'on doit faire, mais ils ne le font pas eux-mêmes, ils ne prennent jamais des décisions. Juste un aparté, je vois que Sandrine Rousseau, qui s'est fait critiquer parce que son frère avait une piscine, bonjour l'écologie avec elle, elle déclare, oui mais comme ça, mon frère n'a pas de baignoire, il ne peut pas prendre de bain. Non mais, sans blaguer, elle aussi, il faut
qu'elle elle est perchée.
Non mais franchement,
c'est elle qui prend les antidouleurs que je prends actuellement.
Elle devrions en prendre des antidouleurs en l'écoutant, c'est absolument insupportable. Effectivement, comme Hidalgo à Paris, elle mène une politique écologique punitive. Et c'est ça qui ne va pas. Et du coup, les gens ont construit des immeubles aujourd'hui et on est content de montrer qu'il y a une
Nadine, est-ce que vous trouvez pas, excuse-moi Elina, par hasard, hein, que c'est pas juste un petit coup de communication du maire de Nancy, une semaine après le scandale que de la cour de l'Élysée en conseil des ministres, toutes les voitures étaient allumées avec la clim? Vous pensez pas que la ficelle est un peu trop grosse?
Enfin, ils sont tous comme ça. Hein. Je fais de la politique depuis suffisamment longtemps et je les connais très bien.
Vous savez très bien que le type il va pas réellement le faire parce que même lui, le maire adjoint a bien dit. On va d'abord expliquer les choses aux gens, nanana.
Non, mais
c'est un coup de com', il marche. On en parle.
Oui, on en parle. Mais ça t'interpelle.
Voilà, 73% des gens trouvent que c'est complètement inutile, donc ça peut pas dire que ce soit très populaire. Et puis, enfin, il y a quand même un truc. Moi, je pense qu'il faut pas trop, c'est bien qu'on discute de tout ça parce que, les choses vont bouger un petit peu là, mais par exemple, on avait fait la même discussion quand on repasse au 90 km/h. On sait que repasser au 90 km/h, les gens disent oui, mais c'est un confort. Et c'est pour ça que l'écologie, je dis qu'elle l'est.
C'est 10 minutes de gain de temps.
Voilà, 10 minutes de gain de temps sur une heure. Mais effectivement, donc c'est une punition. Donc elle est punitive et c'est pour le bien collectif. Pas seulement parce que c'est accidentogène, mais aussi parce que c'est moins de pollution. Donc c'est pour ça
que je te dis qu'à ce moment-là, allons jusqu'au bout du choix.
Mais oui.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, disons, les réfrigérateurs ou
les lumières dans les entreprises la nuit.
Non, mais il faut pousser jusqu'au bout pendant 10 ans. Interdiction d'acheter des réfrigérateurs qui consomment au-delà de temps. Parce que finalement, quand tu regardes le réfrigérateur, tu sais, et où ta machine à laver le linge, et que tu as le
jaune, vert, bleu.
Jaune, vert pour montrer s'il est, au niveau de la consommation, s'il est responsable ou pas. Puis finalement, tu te rends compte que tu peux acheter certains qui sont rouges et qui consomment beaucoup plus. Bah, pourquoi on les interdit pas à ce moment-là, puisqu'ils consomment plus que les autres? Tant qu'à faire, poussons la logique.
Vous
voyez, Nadine, poussons la logique punitive jusqu'au bout avec l'interdiction. Ne fabriquons à ce moment-là pas 18 sortes de réfrigérateurs. On n'en fabrique que 3, ceux qui consomment le moins possible.
On y arrivera.
Mais poussons la logique.
Mais donc, Stade, t'es d'accord pour dire que c'est une atteinte à nos libertés individuelles?
Oui, mais ne restons
pour
pas
le bien collectif.
Ne restons pas à ce moment-là dans cet entre-deux.
Je suis tout à fait d'accord avec toi.
Allons et poussons la logique de la société vertueuse jusqu'au bout.
Moi, tu vois,
on arrête de fabriquer des produits qui polluent, même si un réfrigérateur ça pollue. On dit on ne fabrique à ce moment-là qu'une sorte de réfrigérateur. Tout le monde a le même et on sait qu'il pollue peu. Tout le monde a les 2 ou 3 mêmes modèles.
C'est moi, Nadine. Son état d'esprit, je l'adore parce que moi, je suis le même style qu'elle. Mais avec tout ce qui se passe, et ça pourrait rejoindre notre premier sujet éventuellement, les gens maintenant, ils osent même plus dire quelque chose à l'idée de se prendre un pet dans la tête. Non mais c'est vrai, pour moi, ça me fait pas peur, le mec il peut me traiter de tous les noms, ou la nana aussi, mais si cette société pouvait être...
Tu irais faire la remarque, toi, à quelqu'un qui laisse la voiture,
Moteur. Ça sans problème, ça. Là, je ferais peut-être pas à 3 ou 4 heures du matin, parce que je veux pas non plus me prendre... Mais les gens, faut pas oublier que maintenant, ils ont toujours peur. Même dans le métro, je le vois. Ils disent, je vais rien dire.
Nadine, merci d'avoir été avec nous, à bientôt pour de nouvelles discussions, Nadine. Allez-y,
Une remarque concernant le modèle des réfrigérateurs. Il faut quand même remarquer que ceux qui sont les moins chers sont les plus polluants.
Mais c'est ce que j'ai dit.
C'est toujours le même problème. Alors si on veut commencer par éduquer les gens et faire en sorte qu'ils dépensent moins, etc., qu'ils soient écolos, commençons par là. C'est ça
exactement. Merci Nadine. À bientôt Nadine. Bonne journée du côté de l'heure. Jean-François, bonjour.
Oui, bonjour à tous.
Et vous, quel est votre camp? Le camp du oui, le camp du non?
Ah, je suis à moitié. Ça me fait rire, quoi.
Pourquoi?
Ça me fait rire parce que c'est un coup de com minable pour venir
attirer des voix. Pour midi, alors.
Pour venir attirer des voix pour les prochaines élections, quoi.
Vous pensez que c'est populaire, ce truc?
Ben oui, avec les écolos.
Mais c'est une mesure qui n'appliquera pas.
Mais personne trouve ça populaire.
Il fait plaisir à tout le monde. Il fait plaisir aux écolos et laisse-moi finir.
Il y a pas d'écolos.
Étienne. Ah non, s'il y a pas d'écolos. Ah non, si t'es au Far West.
Mais non, c'est rien, je veux dire. Il représente pas 60% de la population.
Écoute-moi, Étienne. Il est en train de faire un coup de pub magistral. Après le Conseil des ministres, après la polémique qu'il y a eu au Conseil des ministres, où tous les ministres, où tous les chauffeurs des ministres ont laissé les bagnoles allumées avec la clim à fond pendant le Conseil des ministres.
Ouais, cela d'accord. dit, c'est un maire socialiste, hein, voilà. Mathieu Klein. Donc il est dans une majorité qui est contre NUPES, si tu veux.
Voilà. Il a fait ça, je te le dis, Étienne. D'un côté, il se dit, les écolos, ils vont être contents. De l'autre côté, il va faire chier personne parce qu'il va pas mettre d'amende aux gens, donc les autres ils seront pas impactés. Oui. Merci, au revoir.
Jean-François, vous faites attention au moteur ou pas?
Pas du tout. J'ai une voiture avec un start and stop comme beaucoup maintenant et je l'ai dévalidée parce qu'en fait,
quand tu appuies sur un bouton, tu l'arrêtes. Exactement.
Voilà, c'est ce que j'ai fait parce que j'ai écouté votre intervenant tout à l'heure et c'est tout à fait vrai parce que j'avais la chance de regarder, j'ai eu la curiosité de regarder et c'est vrai qu'un démarreur ne tient plus que 100, 120 000 km.
Alors qu'avant, combien il tenait un démarreur?
180, 200 000.
La moyenne, c'est entre 180 et 220 000 km
voilà,
un démarreur.
Tout à fait, donc,
mais c'est de l'obsolescence programmée, c'est les constructeurs qui se font du pognon.
Oui, et en plus.
C'est comme les batteries. Vous savez, les nouvelles batteries au lithium, ils appellent ça les batteries start and stop. Elles font 3 fois le prix et elles durent 2 fois moins longtemps.
Oui.
C'est incroyable.
Et si je peux me permettre aussi, faudrait peut-être regarder la consommation, parce que les voitures qui restent à tourner au ralenti, imaginons qu'on est au feu rouge, la voiture tourne au ralenti. Et la voiture va s'arrêter, mais le feu rouge, il ne dure pas 3 heures. Donc en fait, on va envoyer de la puissance dans le moteur, donc ça va consommer
encore plus. Et des gaz qui vont sortir encore plus.
Enfin, pour moi, c'est mon avis. Peut-être que d'autres ne le partagent pas et je le conçois.
Non, je le partage.
Mais pour moi, c'est un gros coup de pub pour attirer des vagues et tout.
Mais justement, moi, je trouve que c'est intéressant parce que c'est un petit peu comme le nucléaire et un petit peu comme tout ça. C'est-à-dire que on a vu là les limites du nucléaire avec la chaleur. On a vu qu'on était obligé d'arrêter le nucléaire parce que il faisait trop chaud et qu'on pouvait plus refroidir. Donc, je pense que on est dans une phase de réflexion générale. Il y a eu des choses qui ont été décidées complètement idiotes. Peut-être ce stop and go est complètement con. Il faut le supprimer. Peut-être il y a des choses intelligentes qu'il faut faire. Mais je pense que justement, on est devant le moment où il faut arrêter de faire de la politique et se poser les bonnes questions. Est-ce que le solaire, c'est bien? Certains disent, bah oui, mais le solaire, c'est bien, mais ça te bouffe des terres agricoles. D'autres te disent comme en Chine. Oui, mais la Chine va bientôt à 60% au solaire. C'est son objectif. négatif, 60% au solaire. Donc c'est complètement idiot. Et regardez, l'Angleterre va être au solaire à 45%, donc c'est peut-être pas complètement idiot. Et d'autres disent, donc je pense qu'il faut arrêter de faire de la politique, de se dire le nucléaire c'est nul ou le nucléaire c'est fabuleux, etc. Faut qu'on soit intelligent et qu'on mesure ce qui est nécessaire, ce qui est utile, et voilà. Et il y a des choses qu'on a fait qui sont des conneries. Peut-être le stop and go, c'est une connerie. Il faut l'arrêter.
Jean-François, c'est vous qui aurez conclu notre discussion. On va regarder la mairie de Nancy verbaliser les voitures avec le moteur qui tourne. Est-ce que c'est utile ou inutile? C'est un inutile à 66%. Non, on n'en veut pas. C'est la.
Mais moi, je vais aller voir Nadine.
Qui en face à Étienne. Dans un instant.
Dans l'heure.
Les pompiers. Comment les aider? De quoi ont-ils besoin? Est-ce qu'il faut davantage de pompiers volontaires pour susciter des vocations? Est-ce qu'il faut monter l'indemnisation qui est aujourd'hui entre 8 et 30 euros lorsque vous intervenez sur une mission et que vous lâchez votre job? C'est le porte-parole des sapeurs-pompiers, Eric Brocardi, qui sera avec nous.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules. RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story, c'est tous les jours, vous avez raté les GG, vous avez les podcasts à votre disposition sur l'appli RMC ou sur notre site internet rmc.fr. Aujourd'hui, Elina Dumont est avec nous, elle est intervenante sociale, travaille avec les jeunes, avec les SDF du côté de la Seine-Saint-Denis notamment. Nous sommes avec Mehdi Guézard, chef d'entreprise, Étienne Liebig, éducateur, et on accueille notre invité. Avec ces incendies à répétition et gravissimes, c'est devenu l'un des visages de l'été que vous avez vu sur les chaînes de télé. C'est le commandant Brocardi, Eric Brocardi, porte-parole des sapeurs-pompiers qui est avec nous. Bonjour commandant.
Bonjour, mais avant tout je préfère dire que ce sont l'ensemble des sapeurs-pompiers de France qui sont représentés au travers de mon image.
Bien sûr.
C'est extrêmement important parce que voilà, celles et ceux qui combattent au quotidien, voilà, on les voit pas souvent, mais c'est un travail de fourmi exceptionnel qu'ils font au quotidien.
Justement, où est-ce qu'on en est du côté du méga-feu de Landiras? Là, ça y est, il est fixé.
Le feu est bien fixé. On est toujours sur un travail de fourmi, de reconnaissance avec l'ensemble des points chauds qui doivent être toujours sous vigilance parce que ce feu est relativement surprenant. Hein. C'est pour ça qu'il y a eu un deuxième volet de Landiras. Les renforts aujourd'hui de nos collègues polynésiens, notamment, il faut le souligner, de La Réunion, de Mayotte, nous permettent aujourd'hui d'avoir un peu plus d'oxygène dans le renfort du personnel sur place, donc ce qui permet, on va dire, de pouvoir souffler pour ceux qui étaient en première ligne.
Mais combien de temps ça va durer le travail sur place?
Ah non, mais le travail il est encore conséquent. Je rappelle que dans le premier volet du feu de l'Enduras et de la Teste de Buch, le contrôleur général Marc Vermeulen avait précisé que c'était un feu qui ne pouvait pas se déclarer éteint avant septembre-octobre. Donc là, vous imaginez bien que si on n'a pas des pluies qui tombent de manière assez régulière, que l'on ne fait pas toujours la surveillance, on va dire active, et en même temps du travail de lisière et de noyage, on aura du mal à pouvoir essayer d'en arriver au bout.
Ça reste ce qu'on appelle le feu zombie, quoi. Exactement. C'est ça, c'est sous la tourbe.
Exactement, à tout moment, il peut ressortir.
C'est juste à 80 cm dans le sol, il y a des braises et ça peut remonter.
Exactement, c'est un feu aussi étrange que ce qu'il est traître, parce qu'à tout moment, il peut repartir comme il est reparti pour ce deuxième épisode. Donc, à partir de là, il faut être extrêmement vigilant.
Étienne,
moi, j'avais une question. Je voudrais savoir, la parole des pompiers, des pompiers qui ont affaire avec le feu, est-ce que leur parole est écoutée dans la gestion des forêts? Parce que j'ai entendu que en France, 93% des forêts sont privées. Est-ce que vous avez vraiment le pouvoir de dire, dans cette forêt, il faudrait un espace de tant de kilomètres, planter des feuillus et arrêter de planter des pins, etc. Est-ce que votre parole est écoutée?
Bien sûr qu'elle a été écoutée. Elle a été écoutée notamment pour jusqu'à présent dans la région sud-méditerranée dans les années 80-90 où les sapeurs-pompiers ont été mis autour de la table avec l'ONF, avec des services préfectoraux pour permettre justement...
Les propriétaires privés sont obligés d'obéir.
Et aussi, mais il y a quand même une parcelle aussi énormément publique dans ces domaines-là. Donc ça veut dire qu'il faut voir une chose, c'est que tous les éléments qu'on a apportés dans le seul but de pouvoir protéger les concitoyens et surtout l'environnement ont été bénéfiques jusqu'à présent, puisque 90% aujourd'hui des incendies par la stratégie, on va dire, de l'emploi des moyens conséquents sur des feux naissants, permettaient de laisser 90% des incendies sur une enveloppe inférieure à 5 hectares. Donc ça veut dire que globalement, avec la stratégie d'aménagement des territoires et des forêts, ça permettait de résoudre un bon nombre de problèmes et éviter toute catastrophe.
Mais là, ça n'a pas été le cas. Là.
Là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on était affaire à deux choses. Des événements météorologiques assez importants, exceptionnels, il faut le dire, parce que quelque part, quand vous avez du vent, une sécheresse qui a complètement imprégné dans tous les végétaux et en plus dans les sous-sols, et ça a été expliqué à l'instant, on est sur un sujet aujourd'hui où tout départ de feu avec un fort vent a été amené à pouvoir se propager très vite. Donc, la monstruosité du feu, notamment sur ce deuxième volet, faisait qu'à un moment donné, nous étions en rupture capacitaire par rapport à cela, parce que, justement, il y avait ces soucis-là, et derrière, on était amputé de la première vague de 40 engins mis hors service du fait de ce premier incendie majeur sur la Gironde, et qu'à partir de là, on était en déficit de l'autre côté. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a un travail à refaire. De toute façon, je pense que malheureusement, on est encore dans cette culture, on va dire, de l'urgence ou fatalité. Derrière, on prend les décisions une fois que la crise est passée. Alors que là, on devrait être plutôt dans la culture de la prévention.
Mais justement, parce que le président va réunir tous les acteurs après ces incendies. De quoi ont besoin les pompiers aujourd'hui? Franchement, de plus d'hommes.
Est-ce que vous avez reçu le courrier?
De plus de matériel.
Les chefs l'ont reçu, c'est l'essentiel. Après, voilà, ça sera à eux de pouvoir, et ils le feront très bien, parce qu'aujourd'hui, ils sont à la manœuvre pour pouvoir renforcer les autres départements. Et on tient les saluts aussi parce qu'ils ont pris des responsabilités de commandant, ils ont pris des responsabilités de manager. Et à partir de là, ils ont été à la tête et à l'ouvrage pour permettre les renforts. Le sujet aujourd'hui, c'est qu'effectivement, par rapport à ce que l'on souhaite et ce que l'on demande, c'est effectivement plus de bras. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie de dire que ça y est, c'est encore un système qui est en crise.
Il y a un syndicat de pompiers qui dit qu'on a besoin de 14 000 pompiers supplémentaires sur le terrain.
Je vais vous dire très simplement, c'est pour ça que j'ai apporté des documents. Vous savez, on a fait des rapports sur Mission Ambition Volontariat qui datent quasiment de 2011. Donc c'est pas rien, c'était il y a plus de 10 ans, où derrière, à l'intérieur, on écrivait tout ce qui n'allait pas dans le système du volontariat, parce que 80% aujourd'hui de notre ossature permettait aujourd'hui de répondre à toutes les sollicitations, parce qu'on est issu du tissu du volontariat. 2019, on fait un rapport sur, justement, les sapeurs-pompiers volontaires en Europe. Ouais. Prenez un exemple concret. En Pologne, 38 millions d'habitants, 260 000 sapeurs-pompiers volontaires. En France, 67 millions, 197 000 sapeurs-pompiers volontaires. La Fédération nationale aujourd'hui porte l'ambition de porter jusqu'à 250 000 sapeurs-pompiers volontaires contre 197 000 aujourd'hui. Et en termes de réaction immédiate, et je dis bien de réaction immédiate pour les sapeurs-pompiers professionnels, tous ceux qui sont sur liste d'aptitude, et titulaires de l'examen et du concours, doivent intégrer impérativement l'ISDIS pour venir renforcer cette force qui est l'épine dorsale des professionnels.
Oui, mais justement, il y a une crise des vocations, commandant Brocardi, Eric.
Mais justement, c'est pas.
Comment est-ce qu'on pousse à devenir un pompier volontaire?
Aujourd'hui, c'est effectivement, on a un sujet qui est extrêmement important, c'est comment être dans la capacité à pouvoir mieux s'ouvrir aux autres pour mieux faire comprendre nos missions et montrer que nous avons tous les atouts aujourd'hui pour être une activité qui correspond au code de tout le monde. Les codes, c'est quoi? C'est la diversité. Déjà d'une part, qu'elle soit opérationnelle ou dans le reste, mais surtout opérationnelle. Aujourd'hui, on parle du feu de forêt. Dans 24 heures, on va parler des inondations. Dans 24 heures. Donc, une aversion au changement qui est très rapide, une facilité d'adaptation. Comme aujourd'hui, vous changez d'application, vous changez de chaîne très rapidement. Donc, c'est la capacité à s'adapter. Le deuxième point, c'est effectivement, aujourd'hui, les notions d'égalité et de diversité chez nous, elles sont prégnantes et elles sont inculquées dans nos valeurs pour pouvoir permettre d'ouvrir à tout le monde la possibilité de devenir pompier volontaire. Mais aujourd'hui, ça ne saute pas à l'esprit parce qu'on a une mentalité et des yeux qui ont changé sur notre activité.
Je peux poser une question, Alain?
Bah, t'es là pour ça,
alors,
vas-y.
Commandant, en fait, j'ai entendu des pompiers, il n'y a pas longtemps, pas plus tard qu'hier soir, via une chaîne de médias, enfin d'infos. Moi, ce qui m'inquiète, c'est sur quels critères vous recrutez des pompiers volontaires. Parce que je vais vous dire, vous savez ce qu'il disait le mec? Il disait, ah non mais moi ça m'excite de voir le feu, c'est l'adrénaline et tout. Et moi, je l'écoutais, je disais, c'est flippant.
Il y a un film psychologique ou pas?
Bien sûr qu'il y a un film psychologique.
Il faisait peur, le pompier.
Fatalité, il y en a, on l'a vu pendant l'été, malheureusement. Sapeur forestier était devenu... il avait trompé tout le monde, sa famille et son autorité directe. Donc, fatalité, à un moment donné, il peut y avoir des gens qui nous bloussent carrément, il faut le dire. Mais au regard de ça, bien entendu, qu'il y a toujours un entretien qui permet à un moment donné d'échanger sur les volontés de cette personne-là et de, quand bien même, essayer de détecter. Il y a des visites médicales aussi qui sont prévues. Aujourd'hui, de toute façon, il faut bien se dire une chose, c'est que dans n'importe quelle situation, que vous voulez rentrer dans un club de foot ou autre, il y a toujours quelque part un entretien, qu'il soit médical ou qu'il soit juste de consulter les parents, voir comment va l'enfant et discuter avec l'enfant. Oui. Je veux dire, c'est pas nouveau. Donc ça se passe dans toutes les corporations, ça se passe dans toutes les activités, qu'elles soient associatives ou qu'elles soient aussi du monde du salariat, pour permettre justement de mieux connaître les gens. Parfois, il y en a qui passent les mailles du filet. Ah bah, c'est une évidence.
Là, il est pas net. Hein.
Est-ce que vous avez simplement quantifié le nombre d'effectifs dont vous auriez besoin aujourd'hui?
Aujourd'hui, pour déjà répondre de manière raisonnable à toutes les interventions, soit plus de 4,7 millions d'interventions par an, hein, une intervention toutes les 7 secondes, 250 000 sapeurs-pompiers volontaires, c'est déjà une bonne chose déjà pour continuer à consolider le maillage territorial au travers des 6300 casernes de secours.
Il vous en manque 53 000.
Donc il nous en manque 53 000, un peu plus, 63 000 d'ailleurs, effectivement. Le sujet, c'est quoi? C'est que derrière, quand on trouve ces pompiers volontaires, on arrive à réarmer les centres de secours des petits villages, parce que on parle depuis le début de la saison que des zones rurales. On ne parle pas des grandes villes. Les grandes villes, elles sont toujours au turbin pour pouvoir permettre la distribution des secours. Et là, aujourd'hui, c'est ce mal aussi qui est en difficulté. C'est cette difficulté qu'on a où quand on est sur des incendies avec du déploiement de 2000 personnes, on est aussi dans les casernes en train de trouver dans les fonds de tiroirs les personnels professionnels et volontaires pour pouvoir réarmer. Aujourd'hui, on est à flux tendu et parfois même, vous avez des engins qui partent en première intention pour porter vite secours, mais qui sont pas armés réglementairement et qui derrière poussent automatiquement un véhicule armé réglementairement pour pouvoir venir en secours. Parce qu'à un moment donné, c'est un problème aussi de sécurité de l'engagement des sapeurs-pompiers. Donc, ce qu'on invente et ce qu'on évoque dans tous ces documents depuis de nombreuses années, c'est effectivement tout ce qu'on avait projeté. Je parle aussi de cette déficit.
Donc ça veut dire que tous les rapports existent et qu'on n'a pas bougé. Quoi,
mais
en fait.
Aujourd'hui, les rapports existent et il y en a une pile.
Faites-les voir.
Ils existent à l'intérieur. Je dirais même
donc
une chose.
Donc ça, ce sont tous les documents. Alors, qui depuis 10 ans sont donnés par les pompiers.
Exactement. Créés
tous
par
les
la
rapports
fédération.
Sur vos besoins avec des propositions.
Et vous allez voir que même dans un dossier de presse. Et vous allez voir que même dans un dossier de presse qui vous est dédié, on évoque justement la rupture capacitaire. Et le fait qu'à un moment donné, il faut renforcer.
Donc
et
ça fait date, 11 ans,
ça
11
fait
ans,
déjà 2 ans.
Oui, mais 11 ans que les pompiers
la
demandent.
Faute, la faute, elle est. Je veux le dire, la faute, elle est partagée. Elle est déjà partagée. C'est vrai qu'on a du mal à vendre des fois, à dire attention, le sujet, il faudrait quand même arriver là-dessus, parce qu'on sait qu'on va être en rupture. Ça intéresse pas immédiatement. On s'y intéresse. Et ça, c'est commun à tout le monde. Je jette la faute à personne. Mais c'est commun à tout le monde de s'intéresser quand les crises, elles arrivent. Là, le sujet quand même, c'est de dire qu'effectivement, on l'avait évoqué, on l'avait écrit et qu'il fallait prendre des mesures. Quand on parle de situation d'interpellation des sapeurs-pompiers de France au regard de la directive européenne, c'est qu'elle pose une épée de Damoclès sur la tête de l'ensemble du volontariat en Europe.
D'accord.
Pas uniquement en France. Et si le volontariat s'effondre, bah demain, vous n'avez plus de secours devant chez vous. Donc c'est une certitude. On va simplement.
Le système
voir...
est le même. Excusez-moi, parce que en France il y a des pompiers volontaires, il y a des pompiers professionnels.
Et c'est important. Hein, pour le
bien
souligner.
Sûr, à Marseille, Paris, essentielle. Etc. Ouais. Voilà.
C'est des. Il y a des.
Et c'est le même système ailleurs en Europe.
Exactement. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas compter que sur du volontariat à partir du moment où vous n'avez pas d'ossature professionnelle. C'est extrêmement important parce que c'est une base.
Bah oui.
C'est de là qu'en fait part toute la ramification pour que derrière il y ait ce maillage territorial qui est aussi toutes ces actions qui sont liées en termes opérationnels en réaction immédiate. C'est extrêmement important et c'est pour ça que tous ceux qui sont détenteurs aujourd'hui du concours de sapeurs-pompiers professionnels doivent impérativement intégrer les SDIS. On peut pas laisser sur la touche, ce n'est pas possible parce
c'est
qu'aujourd'hui
quoi, les
cette
SDIS, porte. Excusez-moi, mais
excusez-moi, oui, le service départemental d'incendie et de secours.
Ah d'accord.
C'est en fait notre maison, en fait, qui nous permet justement de pouvoir avoir. C'est la maison qui nous finance, en fait.
D'accord.
Donc, globalement,
et
c'est pas au niveau de l'État.
Financé par une taxe sur les assurances, d'où la proposition de doubler la taxe.
Exactement.
Sur les assurances. Mais pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas un ministère de la sécurité civile ou un secrétariat d'État à la sécurité?
Parce qu'aujourd'hui, il le
ça
faut.
Ça peut être utile? Ah, il le faut.
Il le faut. Ça a été évoqué plusieurs fois. Ça a été porté, justement, lors des candidats à la présidentielle, lorsqu'on les a reçus le 10 mars dernier, pour permettre justement de comprendre quelles étaient leurs ambitions vis-à-vis de la protection civile en son ensemble. Mais bien entendu, aujourd'hui, un ministère de l'urgence est extrêmement important pour régler les problèmes de protection civile et les anticiper surtout. Parce qu'aujourd'hui, on a affaire à une crise naturelle. En même temps, vous avez toujours sous-jacent une crise sanitaire. Vous avez des crises technologiques. Et je vous le rappelle aussi qu'il y a eu la Dordogne en plein milieu des feux de forêt qu'il a fallu gérer. Donc, il a fallu être sur tous les plans. Aujourd'hui, il y a aussi d'une manière générale, de manière interministérielle, à pouvoir diluer correctement toutes les informations ou toutes les orientations visant à donner du sens et un bon comportement aux concitoyens.
Mehdi,
combien ça coûte une caserne complète, ça veut dire matériel plus personnel de pompiers, et pourquoi justement ne pas agrandir ces casernes pour un peu, vous savez, faire de la délocalisation. Une fois vous en avez parlé, c'est-à-dire faire des grands centres justement de pompiers au lieu de petites
casernes.
Alors,
Vous voyez ce que je veux dire, c'est pour faire, parce que je sais que vous avez des budgets coupés, je sais qu'ils vous ont enlevé beaucoup de matériel, j'ai entendu par rapport à tout ce qui s'est passé. De toute façon, c'est toujours quand il y a une catastrophe qu'on dit, alors, voilà, ils nous ont coupé tel budget.
Il y a un sujet, le nerf de la guerre à tout le monde.
C'est l'argent.
C'est dans le monde privé, comme le monde du public,
normal.
C'est l'argent.
Je suis d'accord.
Par contre, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des méthodes et il y a certaines souplesses aussi. Aujourd'hui, à budget constant, on peut déjà travailler sur des curseurs et notamment tout ce qui est voué au niveau des assurances, parce que les sapeurs-pompiers, on les assimile souvent à tout ce qui est hectares brûlés, mais quand on fait des défenses de points sensibles, on sauve combien de maisons ? On n'a pas encore compté le nombre de maisons qu'on a sauvées.
Ouais.
Et quand vous faites le sauvegarde et que vous chiffrez cela, la valeur du sauvé aujourd'hui,
c'est des millions et des millions et des
villages. Et des villages et les services départementaux d'incendie et de secours sont dans la capacité à modéliser ce que l'on a permis de sauver.
C'est ça.
Donc cette valeur-là, il faut bien qu'elle s'attaque quelque part.
D'accord,
et que nous, en tant que sapeurs-pompiers, on en retire des bénéfices.
Bien sûr.
Sinon, demain, on dit ça sert à rien de sauver la maison, parce que sinon, le financement derrière et les assurances nous rétribuent rien. Mmh. Donc effectivement, on demande ce doublement. On demande ce doublement parce qu'il y a une action concrète et réelle. Et les gens le comprendraient.
Mais même, je pense que les assurances préféraient vous donner à vous une sorte de pourcentage que de payer la baraque complète, ce qui est logique. Ouais.
Après, la question de la mutualisation aujourd'hui des centres, c'est parce qu'il y a une rupture aussi, on va dire, en termes de captation, et c'est ce que vous avez, évoqué tout à l'heure, d'attractivité.
Ouais, du personnel.
À un moment donné, on a de moins en moins de personnel, il faut remoduler les centres. Mais ça ne peut plus durer. Parce que on le prend encore en exemple, ce sont des petits villages qui prennent en premier les assaillis des crises naturelles. Pardon ?
Combien gagne un pompier quand il commence ?
Un pompier professionnel ?
Ouais.
Oh, il est aux alentours de 1400-1500 euros la première année. C'est ce que je prenais. Voilà, 1375 euros lorsque j'ai commencé en 2000. Professionnel.
C'est fini. Et l'indemnisation pour le pompier volontaire, c'est entre 8 et 30 euros, 8 et 12 euros.
C'est plus au niveau, quand vous regardez, c'est à partir de 8 euros et ça monte jusqu'à 10, 11 euros en fonction du grade.
Au moment de l'indemnisation.
L'indemnisation horaire. Voilà.
Merci, Éric Brocardi, de nous avoir aidé à comprendre. Et on voit bien que ça fait 11 ans que toutes les propositions sont sur la table pour arriver à aider les pompiers et à repenser le modèle. Rémi Barré nous rejoint parce que Rémi, la discussion va continuer, le débat va continuer sur RMC, RMC Story dans le cadre d'Estelle Midi. Bonjour Rémi.
Salut Alain, salut les grandes gueules. Effectivement, dans Estelle Midi sur RMC, dans un instant, on va parler d'abord de ce chiffre. Plus 4,25%, c'est le montant de la hausse du coût de la rentrée scolaire. Et on pose cette question, faut-il aider davantage, encore davantage, les familles. On parlera également de ce coup de gueule du maire de Saint-Gervais en Haute-Savoie qui veut faire payer les touristes qui prennent des risques en montagne. La grève à la SNCF entre Paris et la Normandie, c'était dimanche. Pourquoi ? Pour protester contre la recrudescence des incivilités à l'égard du personnel. Et on vous pose cette question. Sommes-nous tous en train de devenir des sauvages ? Et puis, à 14h, à Nancy, une amende de 135 euros pour les automobilistes qui laissent tourner leur moteur à l'arrêt. C'est normal ou c'est choquant ? C'est dans un instant. On attend vos réactions au 32-16 et c'était le midi sur RMC.
Et nous, on se retrouve demain dans les grandes gueules. Demain, entre 9h et midi. On vous attend bien sûr au 32-16. Demain dans les GG, nous serons avec l'agriculteur Didier Giraud, l'avocate Marianne Soubré, Kaouter Ben Mohamed, la présidente Marseille en colère. Et Florian Philippot, le parti Les Patriotes, sera avec nous.
Allez, dans
les
GG.
Allez, bonne journée et à demain 9h.
RMC, 9h midi.
Les grandes gueules.